Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
En mai 2021, dans un petit village des Cévennes, Valentin Marcon, 29 ans, abat son patron et un collègue de travail de plusieurs coups de feu en pleine tête. Et il s'enfuit dans les bois. Sa traque va tenir en haleine toute la France. Pourquoi Valentin Marcon les a-t-il tués? Il était persuadé qu'il lui voulait du mal. Ouvrons ensemble la côte B du dossier d'instruction de Valentin Marcon.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé Côte B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers.
Ondelat raconte. Côte B sur Europe 1.
Le 11 mai 2021, vers 8h du matin, Valentin Marcon embauche dans la scierie du village des Plantiers, dans le Gard, où il travaille depuis 3 ans. Il croise son patron, Luc Tessonnière.
On dit Valentin, tu n'es pas beau jour? T'es mal luné ou quoi? Ferme ta gueule!
Et là arrive un collègue, Martial Guérin.
Oh Valentin, t'as un sérieux problème toi?
Et là, Valentin Marcon dégoupille. Il ouvre sa veste et y sort un pistolet. Pan, pan, pan. Il vient de tuer son patron et son collègue. Et puis il se tourne vers un autre employé âgé de 16 ans à peine.
Toi, t'es gentil. Je te laisse la vie sauve.
Et puis il s'enfuit. Il s'arrête chez lui et il annonce à sa femme.
Voilà, j'ai fait ce que je devais faire.
Et il part se terrer dans les bois.
Un homme en a tué 2 autres dans une scierie et il a pris la fuite. Les écoliers ont été renvoyés chez eux, les habitants sont priés de ne pas sortir.
La traque a débuté dès le début de la matinée. Elle est d'une ampleur inédite dans les Cévennes. Un voisin nous raconte la manière dont il a été prévenu.
Des voisins qui m'ont appelé pour me dire de me calfeutrer parce que, en fait, c'est les infirmières qui font les tournées le matin de bonne heure qui ont été informées les plus rapidement. Et ma voisine, elle est infirmière, tout ça. Donc, ils m'ont tout de suite appelé en me disant « Vite, calfeutrez-vous chez vous, il se passe des choses à la scierie. »
L'homme a fui dans la forêt. Il est toujours armé. D'importants moyens sont actuellement déployés.
Il s'agit d'un dispositif extrêmement important qui intègre des unités spécialisées, qui intègre des équipes cynophiles. On a également des hélicoptères.
Le père de l'assassin est un copain de collège. Et je lui dis, je reste à ta disposition, bien évidemment, si t'as besoin de quoi que ce soit.
Maître Florence de Prato, avocate de Valentin Marcon.
Et pendant 4 jours, j'ai fait un petit peu la psy auprès de son père, qui pleurait, qui avait peur. Il me dit, mais ils vont le tuer et tout. J'ai dit, non, c'est des grands professionnels, rassure-toi. Le GIGN, il tire pas comme ça sur les gens, sauf si véritablement ton fils les remet en difficulté et se met à tirer sur eux.
Les enquêteurs le qualifient d'adversaire déterminé. Ils se sont donc équipés en conséquence. Depuis maintenant 36 heures, le tueur présumé de la scierie est introuvable. Les 300 militaires déployés et les hélicoptères équipés de caméras infrarouges ne parviennent pas à localiser le fugitif. Sur un périmètre de 15 km², chaque bergerie, chaque grotte est fouillée. Pour l'instant, sans succès.
Il connaît parfaitement les lieux. On est sur un terrain de montagne particulièrement escarpé, densément boisé.
Le but pour nous, c'était l'interpeller vivant pour le remettre à la justice.
Guylain Reddy, commandant du GIGN.
Bien évidemment, le cas d'usage des armes est extrêmement réglementé, il n'y avait aucune raison de tirer, mais c'était une hypothèse qui était fortement envisagée, hein, c'est-à-dire que l'individu, ce qu'on appelle nous le suicide by cop, n'est pas peut-être le courage de se suicider et force, entre guillemets, les forces de l'ordre à lui tirer dessus en ripostant, c'est-à-dire si lui avait ouvert le feu en premier, ben malheureusement on aurait été obligé de riposter. Alors nous on se concentre sur ce qu'on appelle les points chauds, le but c'est de faire prendre un minimum de risque pour les forces de sécurité intérieure engagées, donc dès qu'il y a un point particulier susceptible d'héberger M. Marcon, c'est le GIGN qui va faire les vérifications avec un maximum de précautions.
Son père, il habite à côté de Nîmes, donc il va se rendre dans ce petit village qui est un tout petit hameau au fin fond des Cévennes, à 1h30 de route après Alès. Il va être arrêté évidemment par tous les barrages de gendarmerie qui sont mis en place en cordon de sécurité. Il va dire qui il est et il propose son aide au GIGN pour dire « Écoutez, moi je suis prêt à vous aider à le chercher, vous donner des idées de là où il a l'habitude de partir pêcher ou se promener ou pique-niquer avec sa femme ou se promener tout simplement. Ou aller tirer parce qu'il met bien aussi tirer dans la montagne seul avec des cibles contre des arbres. » Voilà, donc son père va pendant 4 jours être en contact direct permanent avec le GIGN. Et au bout du 4e jour, le directeur du GIGN lui dit « Écoutez, on va faire un appel vocal avec le porte-voix. Écrivez-moi un message le plus court possible, mais le plus touchant possible. »
Valentin, c'est papa. On t'aime. On a besoin de toi. J'ai la garantie qu'il n'y aura pas feu si tu te rends maintenant. Mon fils, fais-moi confiance. Nous sommes tous avec toi. Bisous, papa.
Les tout derniers instants, l'individu, qui je pense était vraiment à bout, hein, il est extrêmement fatigué, il avait soif, il avait faim. Donc spontanément, il se rend aux forces de l'ordre qui étaient en bouclage et qui empêchaient cet individu de revenir éventuellement au village, commettre d'autres méfaits. Il avait laissé ses armes dans sa cache. Il était venu juste avec son gilet pare-balles, peut-être avec la crainte qu'on lui tire dessus. Bien évidemment, ce n'est pas le cas du tout. Donc on n'est pas non plus surpris qu'il arrive à une reddition comme ça, avec des excuses.
Après 4 jours de traque, la pression était trop forte pour Valentin Marcon. L'homme de 29 ans soupçonné d'avoir abattu son patron et l'un de ses collègues s'est rendu hier aux autorités.
Il se terrait, il s'était camouflé, donc dans ce terrain extrêmement hostile. Et on pouvait passer à quelques mètres de lui, probablement que ça a dû se passer, à quelques dizaines de mètres. Et donc quand on l'a récupéré, il était extrêmement affaibli, hagard, disant « Excusez-moi, je me rends, excusez-moi, je me rends ». Il a fallu donner à boire et à manger.
Et Valentin Marcon, qui est maintenant en garde à vue pour répondre d'accusations d'assassinat.
Il ne s'est pas rendu après avoir entendu le message de son père. Il s'est rendu parce qu'il était à bout. Il n'avait pas mangé pendant 4 jours, il a bu que de l'eau. Alors déjà qu'il n'est pas très résistant physiquement, c'est pas un Rambo, hein, contrairement à ce qu'on peut dire certains médias de la presse écrite. Il est tout frêle, hein. Il mesure 1m65, il est extrêmement mince, hein. Il pèse 50 kilos. Voilà, c'est quelqu'un de très maigre, de très sec. Il était épuisé physiquement et intellectuellement par l'horreur des actes qu'il avait commis 4 jours avant.
En garde à vue, Valentin Marcon reconnaît l'assassinat de son patron et de son collègue. Il est incarcéré en quartier d'isolement à la maison d'arrêt de Nîmes. Et 3 jours plus tard, il est transféré à l'UHSA de Seyss, près de Toulouse, un hôpital psychiatrique pour les détenus.
C'est un parloir classique, mais on est dans un hôpital psychiatrique qui jouxte la maison d'arrêt classique de Seyss.
Maître Florence de Prato, avocate de Valentin Marcon.
Donc la maison d'arrêt se divise en deux à Seyss, un côté hôpital psychiatrique et l'autre côté détention classique. Je vois arriver au loin d'un long couloir un petit bonhomme, pas très grand, il mesure 1m65, tout frêle, tout mince. qui s'avance comme ça, on aurait dit de loin un petit pingouin, vous savez, avec une démarche un petit peu oscillante là, parce qu'il est déjà sous médicaments là, il est vraiment sous camisole chimique, il est complètement abruti par les médicaments là quand même, pour pas qu'il décompense, pour pas qu'il fasse de tentatives de suicide, etc. Donc un petit robot qui s'avance doucement vers nous, vers ces deux avocats. Je me présente et je lui dis, je suis l'ami de ton père qui m'a choisi à tes côtés. Et là, il va nous dire bonjour, il va répondre avec une voix, vous savez, d'adolescent qui a pas mué, hein, une voix très très frêle, très aiguë. Et il se présente, il parle comme un enfant en fait, il dit « Bonjour, je m'appelle Valentin Marcon », il a une voix un peu nasillarde, et moi il me connaissait pas. Et comme il est quand même complètement anéanti par les médicaments, on a quelques difficultés à le capter quoi, à mettre en place une relation de confiance.
Moi, je m'attendais à voir un Rambo en face de moi et je vois apparaître cette espèce de gamin, quoi. Avec des petites lunettes rondes, avec un petit bouc, une moustache, avec une apparente myopie et puis avec un aspect plutôt ralenti et chétif.
Alain Penin, expert psychologue.
C'est un garçon qui a 30 ans au moment où je l'examine, qui va grandir en famille. Hein. Il y a un père qui est infirmier libéral, il y a une mère qui est femme de ménage, il est l'aîné de sa fratrie. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il grandit en milieu familial, mais sans aucune difficulté. Quoi. On va chercher souvent, nous les experts, dans la famille et dans les premiers moments, des éléments de fragilisation. Ici, il n'y a rien du tout.
On a l'impression qu'il a eu une enfance lisse. Mais lorsqu'on commence à parler, moi je lui parle de sa scolarité par exemple. Je lui dis alors, t'étais à quelle école, comment ça se passait à l'école communale, tout ça. Et déjà à l'école communale, il est plus frêle que les autres, il est petit, il est maigrichon, donc il a un petit peu tendance à ce qu'on se moque de lui, pas plus. Au collège, ça va un peu plus se durcir parce qu'au collège, il est en adolescence, préadolescence, etc. Comme souvent les adolescents, on va se retrouver à une période de notre vie pas bien dans sa peau, un peu boutonneux. C'est pas le Brad Pitt du collège, vous voyez ce que je veux dire. Donc il va commencer à être un peu la risée des copains parce qu'il est pas super beau gosse, un peu boutonneux et on se moque de lui.
Code B6, expertise psychiatrique du docteur Laurent Laillé. Monsieur Marcon vit douloureusement ses années de scolarisation. Il est victime de brimades, de moqueries, voire de harcèlement. Il nous confie « Au collège, à l'arrêt de bus pendant 2 ans, j'ai servi de cible. On s'amusait à me jeter des cailloux. J'étais le plus petit. Ils avaient l'avantage. »
Il va se replier sur lui-même. C'est un garçon qui, dès le départ, aura très peu de copains. Parce qu'il a peur de l'autre, il a peur qu'on se moque de lui, il a peur de tout ça. Il arrive au lycée, les moqueries, les railleries continuent. Et un jour, là, il va commencer à imploser pour la première fois. Il y a 2 garçons qui font du rugby, qui sont de sa classe, se moquent de lui, l'humilient. Et là, il supporte pas. Et là, il les regarde et il leur dit « Je vous donne rendez-vous devant le lycée ». Et là, incroyable, le petit jeune qui a jamais fait parler de lui, etc., il va les sécher, il va les mettre raides. Parce que parallèlement, il va essayer de surmonter son complexe physique par l'exercice et la pratique de nombreux sports, dont des sports de combat. Comme il m'a dit avec ses mots simples, je les ai séchés devant le lycée et à partir de là, je me suis fait respecter et on m'a jamais plus embêté. Voilà cette personnalité. Donc, très introvertie, quelqu'un qui ne supporte pas l'injustice et qui va se construire comme ça, et tout ce qui arrive de l'extérieur est potentiellement en fait une agression. Cette psychorigidité va se nourrir du fait qu'il est très introverti, qu'il ne s'épanche pas. Ses parents l'ont su après qu'il avait été harcelé au collège et qu'il y avait eu cette altercation devant le lycée.
Code B6. Expertise psychiatrique du docteur Laurent Laillé. Valentin Marcon redouble sa seconde générale en internat avant d'être admis en MFR, maison familiale et rurale, poursuivant sa scolarité en section sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, obtenant à 19 ans le baccalauréat. Il enchaîne avec un BTS technique physique pour l'industrie et le laboratoire, échouant au diplôme dans un premier temps et l'obtenant finalement au bout de 3 ans. Valentin Marcon envisageait une licence en alternance, mais finalement ne trouve pas de stage.
La première fracture va être le divorce de ses parents. C'est un divorce qui va durer sur 4 ou 5 ans, c'est énorme pour un divorce. Il va être aux premières loges et dès qu'il va pouvoir partir du milieu familial, il va le faire. C'est pour ça qu'il va partir à 18-20 ans et qu'il va se retrouver au fin fond des Cévennes à rencontrer celle qui allait devenir sa femme et avec qui il va fonder une famille.
Code B10, expertise psychologique d'Alain Penin. Sur le plan affectif et relationnel, Valentin Marcon s'est marié à l'âge de 22 ans avec sa compagne qui travaille dans une maison de retraite. Au bout de 6 ans de mariage, le couple a donné naissance à une petite fille.
Donc, il n'a eu qu'une compagne et qu'une seule partenaire qui est devenue son épouse. Il est heureux en ménage, il est fidèle, il n'a aucune difficulté, il n'a aucun problème sur le plan de la vie relationnelle, il n'a aucun problème sur le plan de sa vie affective, il n'a aucun problème sur le plan de sa vie sexuelle. Tout va bien.
Et elle est déjà issue des plantiers. Et donc, quand il décide de se marier, il décide de faire sa vie auprès d'elle. Alors, les plantiers, c'est un hameau, c'est même pas un village, c'est un hameau. Il y a 259 habitants, donc vous imaginez comme c'est petit. Tout le monde vit les uns sur les autres et tout le monde se connaît. Mais lui, il va arriver dans ce village comme un peu un étranger qui arrive de la grande ville Tiénim et qui va se marier avec une locale. Voilà, ça commence comme ça.
Il va travailler un petit peu dans le bâtiment, il va faire de l'enduit, de cloison, mais ça ne motive pas, ça n'intéresse pas du tout. Ensuite, il va travailler pour l'entreprise Haribo, celle qui fabrique des bonbons, là. Il va devenir fabricant de dragées. Et puis, il va devenir employé communal, où il va être chargé de la voirie et de l'entretien d'une station d'épuration.
Il va prendre le rôle de son beau-père, c'est-à-dire qu'il va être cantonnier, il va être homme à tout faire dans la mairie. Quand il y a des arbres qui tombent sur la route, il va aller couper les arbres, il va repeindre l'école quand il faut repeindre l'école, enfin toutes les prérogatives d'une mairie pour l'entretien de son territoire.
Et ce n'est que par la suite qu'il va être recruté par la scierie du plantier en qualité de scieur. Son problème, c'est que il va assez vite présenter des comportements assez particuliers parce que lui est comme ça un petit peu anxieux. Et puis ça va se focaliser au plan professionnel parce que il va acquérir la conviction que son employeur allait le renvoyer. Il va échafauder comme ça tout un système de raisonnement, tout un système de convictions qui vont l'amener à cet état d'hostilité et cette conviction qu'on allait lui vouloir du mal, qu'il y avait une hostilité énorme à son endroit. Il s'est senti donc effectivement complètement dédaigné, il s'est senti parfaitement blessé et il a accumulé un petit peu à la manière d'une cocotte minute, laissé monter une pression très importante. Il a accumulé des éléments qui sont des éléments de rancune tenace, qui, à mon avis, après, se sont libérés pour un motif parfaitement futile.
Retrouvez Christophe Andelatte pour la suite de Code B dans un deuxième podcast déjà disponible sur votre plateforme.